C'est vivre avec et pour la foi. Et ça, je l'ai entendu. Et je vais parler aussi de la foi naturelle. La foi naturelle, c'était celle de Thomas. C'est celle de Thomas, c'est-à-dire, c'est quand je vois que je crois. Et moi, ce que je veux parler ce matin, ce dont je veux parler ce matin, c'est la foi surnaturelle. C'est-à-dire vivre avec et pour la foi. Hier, on est allé au forum des associations. En ce moment, il y a pas mal de forums dans les d'associations dans les communes. Et donc, nous, on va là-bas, à Bois-Grenier. Notre voisine fait partie du conseil municipal. Et puis, elle nous chope en disant, bah, tenez, on a une grille. Vous allez sur chaque stand. Il y a une question par stand. Vous mettez la réponse, vous mettez dans le panier, etc. Et donc, Cassandre a pris ça à cœur. Donc, j'ai fait avec elle et puis Pascaline aussi. Et puis, on a rempli tant bien que mal les questions. On a mis dans l'urne. Puis après, on rentre à la maison. Et puis donc, mon voisin, on était en train de tondre ensemble. Il me dit, ah, Frédéric, t'as gagné. On a gagné 100 euros en bon décathlon. Voilà, petite bénédiction. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est vrai que bah, nous aussi, on y ricraque. On ne va pas se voiler la face. Et Dieu bénit. Dieu nous a donné là un bon... C'est-à-dire qu'on a mis notre foi en action. Et la foi en action, ça a été de dire, je remplis le questionnaire. Je peux très bien dire, moi, je le veux, ce bon de 100 euros de décathlon. Mais si je ne mets pas ma foi en action en remplissant le questionnaire, je ne l'aurais pas eu, ce bon 100 euros. Deuxième chose, on rentre, et puis juste au moment où on arrive devant la maison, il commence à pleuvoir, et je voulais tondre ma pelouse. C'est bête hein, quand c'est comme ça, parce que vous ne pouvez pas tondre. Puis moi, je mets le casque, avec mon téléphone, je mets un prêche, et j'écoute un prêche en même temps que je tonds, donc le casque avec la flotte, bon bref. Et donc j'étais dans mon garage, j'ouvre mon garage, et je sors ma tondeuse, et puis je commence à prier, je dis « Seigneur, voilà, j'ai besoin de tondre ma pelouse, parce que autrement elle va être trop haute, etc. Arrête la pluie. » Puis j'attends. Puis j'attends. Et la pluie tombe. Et puis à un moment, j'ai dit, allez, il n'y a pas, j'y vais. Je sors la tondeuse et j'y vais. Je sors la tondeuse, je la branche, une électrique et tout. Je commence à tondre. La pluie s'arrête. J'avais mis ma foi en action. J'ai non seulement prié, j'ai dit, Seigneur, tu vas arrêter la pluie, mais en plus, j'ai fait le pas de foi. C'est-à-dire, j'ai pris alors c'est des petites choses, hein, vous pouvez vous marrer, etc. C'est des petites choses, mais c'est des choses qu'on peut vivre chaque jour. Et quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en donne des plus grandes. Et Dieu va nous en donner des plus grandes. Mais commencez à mettre votre foi en action en disant, Seigneur, voilà, moi j'ai besoin que la pluie s'arrête parce que je dois tondre mon gazon. Et puis voilà, boum. Donc je l'ai vécu, on a vécu ce bon de 100 euros, Chanel a vécu des choses, Patrice, il y a tous ceux qui ont prêché. C'est vrai que les enfants, nos enfants nous donnent des leçons, mais il faut voir comme. On les a toujours enseignés à prier, à vivre dans la foi, à vivre une vie de chrétien. Et des fois, ils nous font des leçons de morale avec Pascaline, on dit, mais ils sortent de ça d'où eux? Alors soit on les baffe, soit on dit, écoute, merci pour la leçon. Dernièrement, on avait des gens qui voulaient acheter notre maison et les gens voulaient nous faire une offre. Et puis, c'est pas allé jusqu'au bout, les gens sont désistés. Et Nicolas est venu me voir en disant, mais de toute façon, moi j'avais reçu que c'était pas eux. Ok, d'accord. Bon, ça fait mal au cœur parce que j'aurais bien aimé que ce soit eux, mais Nicolas m'a dit, c'est pas eux, je l'ai reçu. Et puis il me vient me voir quelques jours après et puis il me dit, moi j'ai reçu que la maison elle est bientôt vendue. J'ai mon fils qui a 12 ans qui prophétise. Et là, vous vous dites, je ne dis pas ça pour m'enorgueillir, hein, ce n'est pas le but. Hein. Mais de voir qu'à partir du moment où on enseigne la foi, même aux plus jeunes, ils commencent à vivre par la foi. Et ça, il faut qu'on rentre là-dedans. Il faut qu'on puisse continuer à rentrer dans cette notion de foi. Et pourquoi j'ai pris ce thème? Tout simplement parce que dernièrement, on a vécu des choses dures, on les vit toujours d'ailleurs, mais on vit des choses difficiles, on est attaqué. Je ne suis pas le seul ici. On n'est pas les seuls avec Pascaline à être attaqué. Mais on a la foi. Et là, ce matin, je suis devant vous et je suis en paix. Là, j'ai une paix, là. Parce que il y a quelques jours de ça encore, je n'avais pas cette paix. J'étais anxieux. Je me dis, oh, comment on va faire? Comment on va s'en sortir? C'est pas possible. Et en fait, j'ai confessé des choses que je n'ai pas le droit de confesser. Et j'ai mis ma foi en action. J'ai dit, Seigneur, en ton nom, cette maison, elle va être vendue. En ton nom, notre situation financière va se régler. En ton nom, Seigneur, tout va rentrer dans l'ordre et on va pouvoir être des combattants. Et on va pouvoir après témoigner, on va pouvoir donner parce que toi, tu auras pourvu dans notre situation. Et le jour où notre situation sera en ordre, avec Pascaline, j'espère qu'on aura l'occasion de venir vous témoigner de tout ce qui s'est passé. D'accord? Il y a une chose que j'ai oublié de faire, et je vais continuer mon prêche, mais voilà, moi je veux toujours être dans cette lignée des témoignages, parce qu'on voit que là, non seulement, et ça c'est quelque chose qui m'est cher, c'est que ici on est une famille. moi, je vous considère comme ma famille. Vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Et vraiment, on est une famille. Et quand il y a des personnes nouvelles qui viennent dans l'église, quand je vais les voir et que je me présente à eux, souvent, je leur dis, ici, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes dans la famille. On n'est pas un club. On n'est pas un club, on n'est pas là pour se dire, bah, on est entre nous, il y a un nouveau qui est là et on le regarde comme ça, du coin de l'œil, en disant, t'as vu comment il est habillé, comment machin. Non, on l'accueille. Donc je voudrais accueillir ce matin tous ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois ici dans l'église? Alors je sais qu'il y a Fatih. Ouais, vous avez vu, je ne suis pas comme Antoine, je retiens les prénoms. Tu peux, ça m'était. Ton prénom? Rosalie. Waouh. Bienvenue Rosalie. Est-ce qu'il y a d'autres? Après, bon, ce que vous allez faire, tous ceux qui sont là pour la première fois, levez-vous. Comme ça, on va vous. Bon, on va vous viser et on va. Après. Rosalie, j'ai pas dit de t'asseoir. Je suis taquin. On fait un tour de prénom. Helmut, Jerry, Jennifer. Oh non, pas encore une. Enrique. Eh bien, écoutez, bienvenue. Soyez les bienvenus. Vous êtes vraiment chez vous ici. Après, on va vous accueillir. C'est vrai que le but, c'est qu'on puisse venir vous dire bonjour. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes vraiment chez vous. Puis, je vois qu'il y a Ophni qui est revenu. Bienvenue, Ophni. J'ai oublié personne? Non? Voilà. Patrice? Non, pas toi. Pas Patrice. Non, pas Patrice. Non, 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 pas Patrice. Et ça... Vous voyez, ça c'est même le fait d'accueillir comme ça les nouvelles personnes, j'aime ça. J'aime ça parce que je me dis que s'il y a des nouvelles personnes ici qui sont dans l'église, c'est qu'un jour il y a quelqu'un qui leur a parlé de leur foi. Parce que quand on est chrétien aujourd'hui, on dit qu'on est un homme de foi. Et quand on parle des dons, il y a 9 dons qui sont cités dans la parole, on parle du don de foi. Il y a vraiment une notion de foi qui fait partie du béaba du chrétien. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est super important parce que, déjà, la Bible est très cash. Elle nous dit que sans foi, on ne peut être agréable à Dieu. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est allé voir toutes ces personnes, Rosalie, c'est un très joli prénom, Helmut, Fatih, c'est quelqu'un leur a peut-être dit, ben voilà, moi, écoute, je crois en Jésus. Je crois en Jésus et voilà, et ils ont eu l'occasion de parler. Et ces personnes qui sont là pour la première fois ont eu ce désir de venir voir ce que c'était peut-être qu'une église. Peut-être qu'ils ne connaissent pas, peut-être qu'ils connaissent, peut-être qu'ils ont envie de connaître une autre église, peut-être. Mais ici, le but pour nous, c'est de montrer comment on vit notre foi. Et c'est vrai que ces témoignages, moi j'aime bien faire ça, vous le savez que j'aime bien faire. J'aime bien avoir un micro ouvert et dire, voilà, ceux qui ont besoin de témoigner, ceux qui ont envie de témoigner, ceux qui ont envie de partager avec les autres en disant, voilà, moi j'ai vu Jésus agir dans ma vie cette semaine et je veux le prouver. Je veux montrer que ce n'est pas du pipeau, que ce n'est pas des belles paroles dans un gros bouquin qui est plein de poussière sur une étagère. Non, la Bible, elle est vivante et la Bible, elle dit que si tu vis par la foi, allez vas-y, tu es un homme de Dieu, tu vis par la foi. Et ta foi va permettre à ce que tu vives de belles choses. J'ai un amen. Ouais. Antonia? Oh, c'est Antonia aussi. Le chant qu'on a pris, le tout dernier, Majesté, dit « Je veux entrer dans tes parvis. Être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et t'honorer au Dieu. » Pour pouvoir honorer Dieu, il faut rentrer dans de la foi. « Majesté, majesté, je fléchis les genoux devant toi. » Je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Ô, permets-moi de voir ta face. Vous l'avez chanté ça ce matin. Façonne-moi, Dieu, par ta grâce. Je veux vivre pour toi toute ma vie et te servir, ô Dieu. Et ces paroles, on va les reprendre, j'espère, à la fin du prêche. Parce que ces paroles, forcément, derrière, il y a une notion de foi. Forcément, dans beaucoup de chants qu'on chante ici, il y a cette notion de foi. Donc, on va... Vas-y, c'est pas Paul, c'est Pierre, pardon. Non, mais j'ai vu Paul là-bas. Donc, ici, on a une petite définition de la foi. Et aujourd'hui, qui ne connaît pas le Wi-Fi? Non? Personne? Tout le monde sait ce que c'est que le Wi-Fi? Eh bien, la foi, c'est exactement la même chose que le Wi-Fi. C'est invisible, mais ça nous permet de rester en relation, ça nous permet de rester connectés et de rester connectés avec Dieu. Parce que si on commence à rentrer dans une notion de foi, on est forcément connecté avec Dieu. Et Dieu, lorsqu'il verra notre foi et quand il verra que le réseau est connecté entre lui et nous, eh bien c'est là où il va dire « Ok, on y va. Moi, votre foi, je vous la mettez en action. Eh bien, je vais répondre à ce dont vous avez besoin. » Et cette image, pour moi, elle est vraiment parlante parce que c'est du concret. Aujourd'hui, tout le monde sait que si on n'est pas connecté en Wi-Fi, dans la rue, etc., on ne peut pas aller sur Internet, on ne peut pas être connecté. Et Dieu, ce qu'il a besoin, c'est qu'on soit connecté avec lui. Dieu veut qu'on soit connecté avec lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il veut que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on soit connecté avec lui. Et pas essentiellement le dimanche matin, de 10h à midi. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir cette période de témoignage. Parce que non seulement j'aime ça, mais en plus je me dis que la connexion, elle est continuelle. Elle est continuelle. Et si vous êtes vraiment connecté avec Dieu, Dieu forcément, tous les jours, eh bien, il va voir que vous êtes proche de lui, que vous vous rapprochez encore plus de lui, que vous avez cette intimité avec lui et qu'avec cette intimité, eh bien, Dieu va faire en sorte que eh bien, vous puissiez voir des belles choses. Des belles choses. Ce matin, je me suis dit, soit je fais une période de témoignage comme on a fait là ce matin, soit je fais en sorte que le micro soit ouvert et que plusieurs ici viennent prophétiser au micro. C'est quoi la prophétie? C'est de pouvoir dire, c'est pouvoir faire en sorte que Dieu parle à son peuple, par l'intermédiaire de quelqu'un ici. C'est dur de prophétiser. Beaucoup n'osent pas. Beaucoup reçoivent, mais beaucoup n'osent pas le faire. Et pourtant, on a le privilège de recevoir le 18 octobre un prophète ici, que je connais bien, Victor. Quand on voit un homme, un prophète, alors ce n'est pas le don de prophétie qu'il a, c'est un prophète. Quand on voit comment il prophétise, waouh, vous dites, mais bon sang, c'est impressionnant. Et même quand on voit dans l'Ancien Testament comment tous les hommes de Dieu allaient voir le prophète, et le prophète parlait, il parlait de la part de Dieu, et c'était quotidien. Il n'y avait pas de surprise pour eux, on se disait, ah, il prophétise lui. Non, non, c'était le quotidien. Aujourd'hui, on doit rentrer dans ça. On doit rentrer dans cette notion de prophétie. Et pour ça, il faut avoir la foi de croire que Dieu parle à son peuple et qu'on a un Dieu vivant. De toute façon, si on est chrétien aujourd'hui, c'est parce qu'on a un minimum de foi. Sans la foi, on ne peut pas croire en Dieu. Ce n'est pas possible. On est dans du surnaturel. Parce que le fait d'avoir la foi, c'est de pouvoir croire sans voir. Il n'y a que Chanel qui a besoin de voir pour croire. Tu l'as dit tout à l'heure, Chanel. On va prier pour toi, Chanel. La dia suivante, c'est une expression de Maurice Chaplin. La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. Dieu veut que votre foi grandisse. C'est bizarre de prendre une expression et puis de prêcher sur une expression. Mais pourtant, elle est tellement vraie. Les chrétiens n'ont pas besoin de preuves, mais d'épreuves. Sauf Chanel. Attends, je vais te prendre tout jusqu'au bout. Non, mais jusqu'au bout. Dieu permet l'épreuve. Et c'est pour ça aussi que le témoignage est important. Parce qu'on a tous des épreuves dans notre vie, qu'elles soient plus ou moins longues, qu'elles soient plus ou moins graves. Et arrive un jour où on a la victoire dans cette épreuve. Là, j'ai qu'un seul amen. C'est que là, vous n'avez plus de foi du tout. Là. Il n'y en a plus un qui croit qu'un jour, il aura la victoire dans l'épreuve. Non, moi, je suis dans l'épreuve. Ça fait 24 ans que je suis dans l'épreuve. J'en peux plus. Je ne l'aurai pas, la victoire, je ne l'aurai pas. Déjà qu'on ne faisait pas des trucs comme ça, parce que c'est faux, déjà d'une part, et que le diable entend ce que vous dites. Juste entre parenthèses, la confession de la bouche, de la langue, c'est pour ça que la Bible met un accent sur la langue, de dire, voilà, surtout avant de parler, faites bien attention à ce que vous dites. Parce qu'en fonction de ce que vous allez dire, il faut savoir que le diable n'entend pas vos pensées, ne voit pas vos pensées. Par contre, il entend ce que vous dites. Et c'est pour ça que même si vous avez des mauvaises pensées dans votre tête, eh bien, ne les dites pas. Qu'elles restent dans votre tête. D'accord ? La foi ne se prouve pas, elle s'éprouve. Les chrétiens n'ont pas besoin de preuves, mais d'épreuves. Et l'épreuve est difficile. Dernièrement, quand j'ai partagé l'épreuve qu'on traverse à quelqu'un, il m'a dit « Mais estime-toi heureux, tu as la santé. » l'ai baffé. Non. L'épreuve, on ne peut pas la minorer. On ne peut pas dire, toi, tu vis une petite épreuve, toi, tu vis une grosse épreuve. Oh là là, mon pauvre, tu vis une grosse épreuve. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il y en a qui vont très mal vivre le fait d'avoir un rhume. Sandy, la preuve, elle a les cheveux bleus. Mais, et puis, il y en a d'autres qui vont avoir une maladie. Bon, on prend souvent l'exemple d'un cancer, parce que c'est vrai que... Mais qui vont bien le vivre. Même si c'est une épreuve qui est difficile, Brigitte, elle garde le moral. Elle garde le moral. C'est dur pour elle et je ne voudrais pas être à sa place parce que c'est vrai qu'elle vit quelque chose de difficile. D'ailleurs, il faut continuer à prier pour elle. Mais elle garde le moral. Dernièrement, moi, je me souviens, c'était Jacqueline, la femme de Jean-Louis Laude. On l'avait vue avec Antoine et Christiane, on l'avait visitée quelques jours avant qu'elle parte. Mais elle nous faisait la leçon de morale en disant, mais attendez, ouais, bah, il faut continuer, hein. Et elle était sur son lit de mort. Et c'est ça où et il ne faut surtout pas minorer. Et là où on m'a dit, t'estimes-toi heureux, t'as la santé. Oui, je dis, oui, mais enfin bon, mon épreuve, elle est quand même balèze. Hein. C'est quand même pas... Ouais. Non. Non, il faut absolument pouvoir avoir cette foi dans les épreuves, que ce soit dans un rhume. Alors, c'est pas une grosse épreuve, un rhume au bout de 8 jours, c'est parti, hein, on est d'accord. Mais pour certains, c'est une épreuve. Hein. Il y en a, ils vont rester couchés 8 jours. Hein. Mais... Ça fait partie, et Dieu permet le temps d'épreuve. Pourquoi ? Parce que Dieu veut permettre que notre foi grandisse. Et que si on vit sur un nuage, comme les bisounours, eh bien, on se retrouve à vivre sur un nuage, et tout va bien, on vient près du soleil, hein, on est sur un nuage, etc., on a chaud, on n'a rien. Mais comment voulez-vous faire grandir votre foi ? Comment voulez-vous qu'elle grandisse si tout va bien ? Et c'est pour ça que souvent, on est critiqué, nous, les chrétiens, parce qu'on nous dit, ouais, de toute façon, les chrétiens, ce sont souvent les faibles d'esprit. Non, ce sont des gens qui vivent des épreuves et qui comprennent que forcément arrive un moment où s'ils reviennent à Dieu, bah Dieu va prendre en main leur épreuve. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous prenez un milliardaire, ah bah c'est sûr, hein, il est un peu plus tranquille que nous, hein, sauf à part la santé, hein, quand ça déraille. Mais je voyais Benzema, cette semaine, il s'est payé une Veyron. Une Veyron, c'est la voiture la plus chère au monde. 2 millions d'euros, 1000 chevaux. Mais il est tranquille. 2 millions d'euros. J'ai rien contre lui, il peut se le permettre, tant mieux. Mais ça n'empêche que lui, pour l'instant, il ne vit pas d'épreuves financières. Il peut vivre des épreuves, qu'elles soient sentimentales, elles peuvent être de famille, elles peuvent être de maladie. Mais voilà, ce sont des personnes qui ont aussi besoin de Dieu, parce qu'ils ont forcément d'autres épreuves. Peut-être pas dans les finances, mais ils ont d'autres épreuves. Vous êtes toujours avec moi ? Ouais ? La diapositive suivante nous dit que le naturel est complètement à l'opposé du surnaturel. Et c'est là où il y a deux types de foi. Il y a une foi qui est naturelle, c'est de croire c'est de voir pour croire. Ça, c'est de la foi naturelle. Oh là. Et c'est Thomas, hein, quand on voit Thomas dans la Bible, il dit, mais de toute façon, Seigneur, moi, tant que je ne verrai pas les trous dans tes mains et les trous dans tes pieds, le trou que tu as dans le côté droit, moi, je ne croirai pas. Ça, c'est la foi de Thomas. Il a besoin de voir pour croire. Mais nous, on a besoin, et Dieu veut, qu'on rentre dans une foi qui est surnaturelle, qui est surnaturelle. Il a besoin, Dieu, pour qu'on puisse développer ça, pour avoir une relation avec nous, et pouvoir aller encore plus loin, et pouvoir faire en sorte que notre foi soit grandissante, et plus elle grandira, ça veut dire que plus on aura été fidèle dans les petites choses, et plus Dieu nous en donnera de grandes. Oh les gars, réveillez-vous là. C'est lourd hein, pour le mec qui prêche là, quand c'est comme ça. Amen. Hébreux 11, verset 1. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des notions qui sont importantes. Il y a la notion d'espérance. La notion d'espérance. J'espère dans quelque chose. Dernièrement, là, j'ai déjà prêché sur la foi, il y a plusieurs mois de ça. Et j'avais donné ma propre définition de la foi. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent ? Ouais, toi, t'es marié avec moi depuis 20 ans. Non ? Alors, la foi, oui, toi ? Oui, le petit monsieur là-bas ? Oui ? Quand je vous disais qu'il est plus vieux que moi. La foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Non, c'est juste un exercice, il faut s'entraîner. La foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Et quand on le dit vite, la foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. Alors, c'est pas français, hein, je vous l'accorde, mais mon ancien pasteur était australien, donc il parlait un petit français australien. J'ai rien contre les Australiens. Hein. On a une Australienne là. Rosalie, t'es australienne aussi, non? Oh. Oh là là, ma pauvre Rosalie. Mais donc oui, la foi, c'est croire que c'est quand c'est pas pour que ce soit. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une notion de surnaturel. La notion de surnaturel, c'est de dire que voilà, moi, je suis en Dieu, et que déjà, si j'ai de la foi, je peux lui être agréable. Ça veut dire que déjà, si j'ai de la foi, je peux m'approcher de lui. Déjà cette notion, ça va? Sans foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Ça veut dire que je peux pas. La relation entre lui va être avec des gros parasites. Je ne pourrais pas être trop proche de lui. Je pourrais me rapprocher, mais bon, il va dire, ouais, mais si tu veux bosser pour moi, mon pépère, il faudra que tu aies un peu plus de foi. Ça, c'est ce que Dieu peut nous répondre. Et à partir de là, eh bien, croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit, ça veut dire qu'il y a des choses où je sais que les promesses qui sont dans la parole sont certaines. Elles sont certaines, les paroles. Et c'est pour ça que là, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux épreuves que l'on vit, j'ai eu pas mal d'attaques durant cet été, parce qu'à 3h du mat, j'étais réveillé, et la pensée qui me disait « mais ton Dieu, il n'existe pas ». La pensée qui vient comme ça, où on te dit « mais regarde, si ton Dieu, il existait, tu ne serais pas dans cette situation-là ». Et là, croyez-moi, il y a des combats. Parce que quand vous commencez à broyer du noir, bah, vous n'arrivez pas à vous rendormir. Et le but, bah, là, c'est carrément de dire « ok, t'as besoin qu'on combatte, toi, mon pépère, on va y aller. Mais c'est moi qui vais gagner, parce que j'ai un Dieu qui est plus grand que toi. » Et c'est là où on professe, où on dit toutes les promesses qu'il y a dans la parole. Lorsqu'on prie avec Pascaline, dernièrement, je l'ai fait, j'ai pris un bout de papier, j'ai mis des promesses sur un bout de papier, et j'ai dit à Pascaline, on va proclamer ces promesses-là. On va les proclamer, parce que les promesses, elles sont véridiques. Et c'est pour ça que là, on peut très bien revenir par rapport à ça. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, on espère des choses qui sont conformes à la parole, conformes à ce que Dieu veut. On est d'accord? Donc là, on peut espérer avoir de belles choses. Et moi, j'ai une espérance dans le cœur à me dire, mais Seigneur, je veux voir des grandes choses. Je veux voir. Je veux voir. Je sais que je vais les voir, mais en plus, j'ai tellement envie de les voir que forcément, je vais les voir. Et j'ai un feu qui est là, j'ai un feu qui est là aussi, qui me dit, on va y aller. On va aller voir ces choses. Dernièrement, petite voix aussi qui me dit, mais si vous étiez vraiment dans la foi, vous verriez des belles choses. Vous verriez des guérisons. C'est vrai que des guérisons, on n'en voit pas des, comme ça, spontanées. Dans l'idéal, vraiment, si on était consacré en Dieu, on imposerait les mains malades, ils seraient guéris instantanément. Dernièrement, j'ai été repris, quelqu'un qui m'a dit, mais faut arrêter de dire dans les prières, si c'est ta volonté, Seigneur, guéris. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut guérir les malades. Il est même dit que Dieu veut rallonger les jours des gentils. Dieu veut rallonger nos jours parce qu'on est dans ses promesses, on est dans ses plans. Et là, je suis en train de voir, parce que c'est quelque chose qui pour moi sera besoin d'être étudié, mais quand on dit, bah, de toute façon, l'heure de ta mort, elle est écrite, c'est pas biblique. Puisque Dieu dit, voilà, si tu es un gentil, je rallongerai tes jours. Ça veut dire que forcément, la date de notre mort n'est pas fixe. Oula, j'ai lancé un pavé là. Ouh, je la sens bien celle-là. Ah, ça va. Si vous me voyez partir en courant, c'est que... Il y a Romains 10, les versets 10 et 11 qui disent « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. » Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est là aussi où ça confirme qu'il y a deux fois. Il y a la foi intellectuelle, la foi de Thomas, la foi de Chanel. je sais pas pourquoi je me suis fait une copine. Excuse-moi Chanel, je la taquine, il n'y a rien de sérieux dans ce que je dis. Non, non, au contraire, bien au contraire. Ouais. Mais, et puis il y a la foi de cœur, la foi que Dieu veut qu'on ait, la foi du cœur, la foi qui dit, ok, c'est la foi surnaturelle, celle qui va à l'encontre de la foi naturelle. Parfois, la foi naturelle est prise de dessus par la foi surnaturelle. On peut très bien avoir des fois naturelles, mais on a beau dire, mais même si Thomas a dit, Seigneur, moi je ne croirai que lorsque je verrai les trous dans tes mains et ton côté percé, mais ça n'empêche qu'il y avait une foi surnaturelle derrière ça. Il n'y avait pas que de la foi naturelle. La diapositive suivante va nous expliquer comment la foi, on la travaille. Donc là, je vais lire assez rapidement parce que ça va être 14 à 26 au niveau des versets. Mes frères et sœurs, donc déjà on est bien d'accord sur ça, mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Là, je pourrais m'arrêter là. Ça veut dire que tout simplement, la foi sans les œuvres est vaine. Et ça va être noté à la fin. Si on n'a pas ce pas de foi à faire, c'est-à-dire que si moi je fais le pas, et s'il n'y a pas un petit truc qui me permet de faire le pas, qu'est-ce que je fais? Je me casse la binette. Et je voulais avoir la vidéo, je l'ai trouvée sur YouTube, je n'ai pas réussi à la prendre, mais dans Indiana Jones, vous avez vu les références un peu? À un moment, il se retrouve devant un grand ravin comme ça, et il doit passer dans une grotte qui est de l'autre côté. Et il a son fascicule, alors il n'y avait pas le son parce qu'il y avait des droits d'auteur, etc. Donc je n'avais pas les dialogues, mais il se dit, bah oui, mais c'est bien mis que là, je dois aller de l'autre côté, et que bah, comment je fais? Et à un moment, bah, Indiana Jones, il fait ça, et puis il y va. Et en fait, il y a un petit pont qui est là, qui est exactement la même configuration que la falaise en face. Ça veut dire qu'on ne le voit pas parce qu'il est confondu avec la falaise, mais il fait le pas de foi. Et c'est comme ça qu'il arrive à passer de l'autre côté. Et c'est ça aujourd'hui. Les œuvres, c'est ça. Les œuvres, c'est ça. Dernièrement, je partageais avec Antoine en lui disant, mais il faut qu'on arrive dans l'Église à passer au-delà. Alors, je minore absolument pas la prière, parce que la prière est d'une grande efficacité, ça c'est biblique. Mais je pense qu'arrive un moment où on doit se dire, ok, on a des personnes qui ont des problèmes, mais il faut qu'on puisse non seulement prier pour eux, pour que leurs problèmes se résolvent. Wow. C'est ça, hein? Merci. Ouh. Tu m'as fait peur, Elisabeth, sur ce coup-là. Ça se résolve. Ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Attends, je suis Frédéric. Mais qu'en plus, on puisse aller au-delà, c'est-à-dire de pouvoir les aider. Et moi, je voudrais ça. Je veux ça. Je veux que dans l'Église, on puisse rentrer dans cette dimension où non seulement on puisse être avec une stature de disciples, tous, qu'on puisse avoir cette croissance et avoir cette stature de disciple qui est épurée. C'est-à-dire qu'elle a été brûlée par le feu et que tout ce qui est paille, foin et machin, ça a disparu, mais qu'il reste là tout ce qui est de richesse, toutes les pierres précieuses. Vous voyez de quoi je veux parler? Il faut qu'on rentre à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi que l'on voit beaucoup de personnes, enfin beaucoup, on voit certaines personnes qui quittent l'Église. Pas que la nôtre, hein, mais qui quittent l'Église avec un grand E, tout simplement parce qu'à la première épreuve venue, ils n'ont pas cette stature qui dit que dans l'épreuve, et qui leur dit dans leur tête, mais aussi dans leur cœur, dans leur foi surnaturelle, que leur épreuve va être résolue, là, dans ce cas-là, résolue, t'as vu, mais résolue par Dieu. Et les gens se disent, ben moi, oui, c'est ça, d'être chrétien, je m'en vais. Et c'est à nous, chrétien, disciple, vraiment disciple avec un grand D, avec une stature parfaite, alors parfaite, attention, hein, mais on apprend toujours, mais c'est de pouvoir dire, non seulement je vais prier pour ceux qui ont des problèmes, mais en plus on va aller plus loin que ça, on va t'aider. Et c'est pour ça que l'Église, elle se doit aujourd'hui de pouvoir continuer à aider, que ce soit au niveau des pauvres, que ce soit les malades, qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse voir des guérisons, et qu'on puisse vraiment rentrer dans cette foi, une foi qui va nous permettre de déplacer des montagnes. Ça, c'est biblique. Jésus n'hésitait pas des fois à dire à ses disciples, gens de peu de foi. Il ne devait pas le dire gentiment dans ces cas-là. Ce n'était pas avec le petit rictus, gens de peu de foi. Non, non, c'était gens de peu de foi. Si vous aviez de la foi comme la grosseur d'un grain de sénévé, qui est la plus petite graine au monde, vous déplaceriez une montagne. On va y arriver. On va y arriver. On va y aller. On y va. Et bien plus tôt que vous ne pensez. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? La foi sans œuvre. On a quelqu'un, effectivement, le fait de dire, je vais prier pour toi, oui, c'est bien. C'est vrai que là, Christiane, on a eu des nouvelles. Elle est scotchée, pardon. Elle est scotchée par le, par le nombre de SMS, de messages, de visites, etc. Parce qu'elle voit qu'il y a des gens qui sont derrière, qui la soutiennent dans cette épreuve, et on sait qu'on va avoir la victoire sur cette épreuve. Et ça lui fait un bien fou. Nous, dernièrement, quand on a vécu, quand on était vraiment au fond du trou, mais c'est impressionnant, des gens qui envoient des SMS en disant « Fred, accrochez-vous, ça va aller », des gens qui m'appellent, qui nous appellent. Ça fait un bien fou parce qu'on sait que non seulement il y a des gens qui prient pour nous, mais qu'en plus, eh bien, on est aidé. Et c'est là que ce verset est clair. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Elle est morte. Elle est morte. Et l'inverse, c'est la même chose. Des œuvres sans foi, oui, ça reste des œuvres. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Est-ce que tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Bah, tu fais bien. Tu fais bien. Mais sache aussi que les démons aussi le croient. Et ils tremblent. C'est pour ça que le combat, il est là. Lorsque j'ai cette petite voix qui me réveille la nuit en me disant « Mais ton Dieu, il n'existe pas. Ben » Moi, je lui dis « Tu peux trembler parce que moi, je sais que mon Dieu, il existe. » Mon Dieu, il existe. Et non seulement mon Dieu, il existe, mais il est plus grand que mes problèmes. Il est plus grand que mes problèmes. Et il est même plus grand que toi. Vous pouvez le dire hein, quand vous avez cette petite voix. Vous pouvez le dire à haute voix. Dis hey, « Je t'interdis déjà de me parler comme ça parce que tu sais qui je suis. » Mais qu'en plus, sache que moi, mon maître, il est plus grand que toi. Et que tu n'as rien à faire ici. Et tu n'as rien à faire à me dire. Alors maintenant, tu t'en vas. Au nom de Jésus-Christ. Allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture... Ah, je pensais que j'étais à la suite. Ouais. Merci, Pierre, je pensais que tu étais passé à la suite. J'étais en train de répondre, je me dis, mince, je l'ai déjà lu. Veux-tu reconnaître homme sans intelligence ? C'est dur hein, quand on se fait dire homme sans intelligence. Comme quand Jésus dit, gens de peu de foi, avec un petit dédain. Veux-tu reconnaître homme sans intelligence que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Ça, c'est de l'épreuve. Ce qu'il a vécu, ça, c'est de l'épreuve. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres. Non seulement il avait la foi, il savait que Dieu n'allait pas lui permettre de tuer son propre fils, mais il a fait l'action, il a fait le pas de foi en disant « Seigneur, tu veux que je t'offre mon fils en sacrifice ? J'y vais. J'y vais. » Et c'est au moment où il a brandi le poignard, il était prêt à tuer son fils, que Dieu lui a dit « Stop, ok, j'ai vu ta foi, j'ai vu comment tu étais vis-à-vis de moi. Maintenant, sache qu'il y a un bélier derrière, tu vas échanger, tu vas enlever ton fils du bûcher, tu vas mettre le bélier dessus et tu vas me sacrifier le bélier. » Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Waouh, c'est beau ça hein ? Quand Dieu vous dit ça, waouh, qu'il a été mené à la perfection. Sa foi était parfaite. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Oh, c'est un cran dessus là, on est amis de Dieu. Ben, je vous rassure, hein, on est tous amis de Dieu. C'est écrit, je crois que c'est deux ou trois fois dans la Bible, ça, amis de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, par la même manière, été considérée comme juste ? Ça, c'est dur à comprendre. Hein. Une prostituée qui est considérée comme juste. Là, nous, on a envie de se dire, attends, c'est une prostituée, basta, hein. Non, non, même une prostituée peut revenir à Dieu. Et surtout, une prostituée peut revenir à Dieu. Et il y a de très très belles conversions, même en ce moment, de prostituées. Ne serait-ce que Paul Goulet, il a réussi à faire fermer je ne sais plus combien de maisons closes l'année dernière à Las Vegas. Et toutes les prostituées se convertissent. Elles viennent à Dieu, elles viennent à Dieu, elles donnent leur vie à Jésus, parce qu'elles savent. Alors, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers, elle les a fait partir par un autre chemin pour pas qu'ils soient tués. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il faut qu'on rentre dans l'action, dans les œuvres. Il faut qu'on rentre dans la foi qui nous permet de dire, ok, je vais faire des œuvres. Et c'est vrai que si je regarde cette œuvre-là avec une foi naturelle, ça ne sert à rien que j'y aille. Par contre, avec une foi surnaturelle, je sais que mon œuvre, Dieu va surenchérir. Il va adosser dessus. Et je sais que mon œuvre, eh bien, Dieu va faire en sorte que je puisse voir un aboutissement qui soit selon sa gloire à lui et non pas ma gloire à moi. Ça me fait du bien, ça. Ça me fait du bien de voir que Dieu a besoin de voir une foi en nous, en moi, une foi grandissante, que chaque jour je puisse de plus en plus être à son service avec une foi qui est inébranlable, une foi qui peut passer dans le feu et que quand on la ressortira du feu, ce sont des pierres précieuses et des métaux précieux qui en sortiront. Parce que tout ce qui est à côté, qui ne sert à rien, aura été brûlé. Vous êtes toujours avec moi ? Je ne vais pas être trop long, j'arrête. Je vais passer, si tu pouvais passer, donc là il y a Hébreu. Juste après Hébreu, vas-y. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé, c'est une autre expression que j'ai trouvée, alors c'est la deuxième aujourd'hui, j'arrête à deux. Marthe Robin, qui a dit « Chercher Dieu, c'est la foi. Le trouver, c'est l'espérance. Le connaître, c'est l'amour. Le sentir, c'est la paix. Le goûter, c'est la joie. Et le posséder. » Waouh, c'est de l'ivresse. Je la refais. Chercher Dieu, c'est la foi. Ouais ? On est d'accord ? Par rapport à tout ce qu'on a dit là ? Chercher Dieu, c'est la foi. Le trouver, c'est l'espérance. Quand on trouve Dieu, quand on accepte Jésus dans sa vie, il y a une espérance. Il y a une espérance qui est là parce qu'on se dit, mais là, aujourd'hui, ma vie, elle n'est pas toute seule. Je ne suis pas tout seul, moi, à marcher. J'ai Jésus à côté de moi. J'ai de l'espérance. Et ça, c'est génial. Le connaître, c'est l'amour. Là, dans ces cas-là, vous pouvez relire 1 Corinthiens 13. C'est un très beau chapitre pour ça. Le sentir, c'est la paix. Et c'est vrai que quand je vous ai dit tout à l'heure, je suis en paix, parce que je sens que Dieu agit dans notre vie. Je le sens. Je sens que Dieu est là et que chaque jour, même en proclamant les promesses, je sens Dieu qui est là. Alors vous allez dire, celui-là, il est complètement allumé. Il est allumé, là, il a perdu une case ou il a deux fils qui se touchent, je sais pas. Mais non. Non. Parce que ce sont les promesses de la parole qui dit, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et je cherche le royaume de Dieu. Je cherche sa justice. Je cherche à être un juste devant Dieu. Et forcément, Dieu va me donner tout par-dessus tout. Le goûter, c'est la joie. On ne parle pas de manger, parce que j'aime bien manger aussi, donc c'est la joie aussi. Mais goûter la présence de Dieu, c'est la joie. Vous êtes en paix, et forcément, si vous avez la paix, vous avez la joie. Je ne sais pas si elle était chrétienne, cette Marthe Robin, là, si c'était une descendante de Robin des Bois ou de Muriel. Mais quand on écrit quelque chose comme ça, je pense que oui, forcément. Et posséder Jésus dans sa vie, c'est l'ivresse. C'est de l'ivresse. C'est de l'ivresse. Moi, j'ai plaisir à voir des personnes ici, quand je les observe, parce que j'aime bien observer les gens, c'est de les voir grandir. Et comme faisait Antoine la semaine dernière, il disait, mais regardez un tel, regardez, il y a quelques mois, ça, elle était ouais, comme ça, elle arrivait, et puis maintenant, il y a une banane sur le visage. Un tel, pareil, regardez la banane qu'elle a sur le visage et tout. Bah, il prenait que des femmes. Mais c'est moi qui lui dis, bah, vas-y, prends un homme. Il aurait très bien pu parler de moi. La première fois, on est arrivé ici, il y a 6 ans. Antoine, il me l'a dit après, hein, il ne me l'a pas dit tout de suite, une chance. Mais il nous a invités à manger chez eux. Donc tout de suite après le culte, c'était notre premier culte. Ils nous ont invités et je faisais la tête. Je faisais la tronche. Et on a mangé, je me souviens, c'était du poulet qu'ils avaient fait. Hein, et je faisais la tronche, j'étais observateur. Et depuis, il me dit, mais voilà, ça a changé. Parce qu'il y a forcément, quand on rentre dans l'action avec Dieu, quand on voit une église qui avance, eh bien, on est bien. On est bien, on a plaisir. Moi, j'ai plaisir à être le dimanche matin ici, à venir à l'église, à vous retrouver, à passer du temps avec vous. Merci, Antonia. Mais c'est elle-même. Je vais m'arrêter là. Franchement, j'ai tellement ce feu, j'ai tellement envie de vous exhorter. Moi, j'ai envie de m'exhorter en disant, mais Fred, fais grandir ta foi encore. C'est dur, hein? C'est dur. Mais vas-y, fais grandir ta foi. Et c'est à partir du moment où ta foi va grandir, où tu verras des guérisons, tu verras des miracles, tu verras un Dieu qui agit sur des guérisons, sur des miracles, tu verras des choses dans ton boulot, dans ta famille, la famille en premier, tu verras des choses, parce que forcément, tu auras une foi inébranlable. Et moi, je vous exhorte à le faire. Et je vous exhorte à avoir cette foi pour pouvoir dire, mais Seigneur, moi, je t'obéis, je suis ton serviteur, et ta parole, elle dit ça, donc si elle dit ça, ta parole, eh bien, moi, je veux le voir, parce que j'ai la foi pour ça. Lisez votre Bible aussi. Lisez votre Bible. Parce que notre foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est le deuxième. Et forcément, si vous voulez avoir cette croissance, lisez votre Bible. Lisez-la. Et vous verrez, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de lire la parole. Parce qu'on voit comment Dieu agit. On voit qui il est. On le découvre. Et ça fait un bien fou. Et vous n'arrêtez pas une fois que vous l'avez fini, vous la reprenez. Et vous allez la lire différemment à la première fois. Moi, il y a des fois des mots qui me sautent au visage. Et pourtant, je me dis, mais la dernière fois que j'ai lu, ce n'était pas comme ça. Lisez votre parole, parce que forcément, votre foi va grandir par rapport à ce que vous allez entendre. Et ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Et même s'il y a des frères et sœurs qui viennent vous voir, eh bien, vous avez la possibilité de leur dire, ce que tu es en train de me dire là, ce n'est pas biblique. Parce que vous aurez cette connaissance de la parole. Et c'est là où votre foi aussi va agir. Ça m'est arrivé, moi, de dire à quelqu'un un jour, comme Jésus l'a fait avec son disciple, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas les plans de Dieu. Et vous aurez la possibilité, si vous connaissez votre parole, de pouvoir dire à des personnes, mais ce que tu me dis là, ce n'est pas biblique. Parce que vous aurez une foi qui sera bonne, qui sera de qualité, qui sera de plus en plus grosse. Et elle va prendre de la place là. Elle va prendre de la place. Et après, vous ne pourrez pas vous en passer. Vous ne pourrez plus vous en passer. La dernière phrase dit, le possédé, c'est l'ivresse. Je voudrais donner quand même l'opportunité à ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie ce matin de pouvoir le faire, de pouvoir dire, Seigneur, moi j'ai vécu tant d'années sans en étant seul dans ma vie et ne pas tout faire par moi-même. Ça, c'était moi, c'était Fred, ça. Même quand j'ai une période de début de ma chrétienté, j'étais chrétien et pourtant je voulais tout faire moi-même sans que Jésus ne soit dans mes plans. Mais je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, qui n'a pas dit Seigneur, moi je veux que tu rentres dans mon cœur et je veux voir comment tu agis dans ma vie. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça ce matin qui ont envie de donner leur vie à Jésus? Si oui, vous avez juste à lever la main. Et à partir de là, on va prier pour vous. Et on va vous accueillir dans la famille, dans la grande famille de Dieu. Une super famille, une famille comme ça. Il n'y a pas de chamaille, il n'y a pas de. Est-ce qu'il y en a qui veulent le faire? Est-ce qu'il y en a qui veulent ce matin donner leur vie à Jésus? C'est dur, hein?